Dans le train, d'après des nouvelles de Guy de Maupassant. Concept et adaptation, Marie-Louise Bischofberger, avec la collaboration de Dominique Gould. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Mise en scène, Marie-Louise Bischofberger. Un spectacle enregistré en janvier 2024 à la Scala Paris.
Les rencontres font le charme des voyages. Qui ne connaît cette joie de retrouver soudain, à mille lieues du pays, un Parisien, un camarade de collège, un voisin de campagne ? Qui n'a passé la nuit dans un train, les yeux ouverts, à côté d'une jeune femme inconnue, entrevue seulement à la lueur de la lumière, alors qu'elle montait dans le compartiment ? Et quel bon souvenir on garde, jusque dans la vieillesse, de ces frêles souvenirs de route. Suite à la séparation avec ma femme, pour éviter des rencontres qui me seraient pénibles, j'ai voyagé pendant longtemps, passant l'été parfois au bain de mer, l'automne à chasser et revenant à Paris pour l'hiver. Pas une fois je n'ai vu ma femme. Cette année-ci, un mois après mon retour à Paris, j'ai pris froid en sortant du théâtre et je me suis mis à tousser. Mon médecin m'a ordonné d'aller finir l'hiver à Nice. On est lundi, je prends le train de nuit pour Nice. J'arrive au dernier moment, alors que le train s'est déjà mis en marche. Nous voilà en route. Quelqu'un est déjà installé sur le fauteuil du fond, tellement enveloppé de fourrure et de manteau que je ne peux même deviner si c'est un homme ou une femme. On n'aperçoit rien de lui qu'un long paquet de vêtements. Je vois que je ne saurais rien, m'installe, m'enroule dans mon manteau et je tâche de m'endormir.
Oh, c'est stupide d'aller là-bas, ça m'ennuie de quitter Paris. Mais pourquoi avoir cédé à cette idée stupide de voyage ?
Ah, te voilà, cher Pierre. Allons à côté, ici ça dort. Je pensais déjà que t'avais raté le train.
C'est stupide de partir. Je regrette déjà la Seine si belle, les berges si douces, les bonnes journées de flâne dans une barque, les bonnes soirées de somnolence sur la rive, en attendant la nuit qui tombe.
Vous connaissez Pierre, un ancien camarade de collège que j'ai recroisé il y a quelque temps. Pour lui, le monde, la vie, c'est la femme. Il y a beaucoup d'hommes de cette race-là. L'existence lui apparaît poétisée, illuminée par la présence des femmes. La terre n'est habitable que parce qu'elles y sont. Le soleil est brillant et chaud parce qu'il les éclaire. Et là, il se trouve projeté dans un train.
Je répète, c'est stupide de partir.
Fallait pas venir.
Oui, monsieur, je pleure. Cela ne m'arrive pas souvent. C'est peut-être le trajet qui me fait cela. N'essayez pas de me consoler. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Je suis comme un chien perdu. J'étais heureuse, monsieur. Et j'ai très loin d'ici une maison, mais je n'y peux plus retourner tant cela me déchire le cœur. Et j'ai un fils. Il est en Inde. Si je le voyais, je ne le reconnaîtrais peut-être plus. Je l'ai à peine vu dans toute ma vie, à peine assez pour me souvenir de sa figure. Pas 20 fois depuis son âge de 6 ans. À 6 ans, nous l'avons mis en internat à l'école des Roches. C'était fini. Il n'était plus à moi. Il venait 2 fois l'an. Et chaque fois, je m'étonnais des transformations de sa personne. De le retrouver plus grand sans l'avoir vu grandir. On m'a volé son enfance et toutes ces joies de voir croître ces petits êtres sortis de nous. À chacune de ces visites, son corps, son regard, ses mouvements, sa voix, son rire n'étaient plus les mêmes, n'étaient plus les miens. Une année, il eut de la barbe. Je fus stupéfaite et triste. J'osais à peine l'embrasser. Était-ce bien lui, mon fils, mon petit blondin frisé d'autrefois, mon cher enfant que j'avais bercé sur mes genoux, ce grand garçon brun qui m'appelait gravement ma mère et qui ne semblait m'aimer que par devoir. Mon mari mourut, et puis ce fut le tour de mes parents, et puis j'ai perdu mes deux sœurs. Quand la mort entre dans une famille, on dirait qu'elle se dépêche de faire le plus de besogne possible pour n'avoir pas à y revenir de longtemps. Je suis restée seule. Mon grand-fils faisait son droit à Paris. J'espérais vivre et mourir près de lui. Je suis partie pour aller le rejoindre et pour que nous demeurions ensemble. Mais il avait des habitudes de jeune homme. Je le gênais. Je suis revenue chez moi. Et puis il s'est marié. Je me suis cru sauvée. Ma belle-fille m'a prise en haine. Je me suis retrouvée seule encore une fois. Les beaux-parents de mon fils habitent en Inde. Et comme sa femme fait de lui ce qu'elle veut, ils l'ont tous décidé à s'en aller là-bas, chez eux. Ils l'ont, hein. Ils l'ont pour eux. Ils me l'ont encore volé. Il m'écrit tous les deux mois. Il est venu me voir il y a maintenant 8 ans. Il avait la figure ridée et des cheveux tout blancs. Était-ce possible? Cet homme presque vieux, mon fils, mon petit enfant d'autrefois, oh, sans doute, je ne le reverrai pas. Et je voyage toute l'année, je vais à droite, à gauche, comme vous voyez, sans personne avec moi. Je suis comme un chien perdu. Ne restez pas près de moi. Ça me fait mal de vous avoir dit tout cela.
Il ne fallait pas le mettre à l'internat.
Les rencontres font le charme des voyages. C'est ça que j'avais dit. C'est la plus singulière et plus sinistre voyageuse qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je suis mais déprimé.
Oh, regarde, cette jolie jeune femme qui arrive. Une fille du midi, assurément.
Elle ne jette même pas un regard sur nous. Elle a l'air furieuse.
Quels yeux! Elle doit avoir des embêtements, mais ne fait attention à rien.
Moi, tu perds tes frais.
Si on savait lui parler, t'as pas une idée comment lui parler?
Bah tiens, regarde un jeune homme, il s'assoit à côté d'elle, tu vois?
Nous sommes 5 à présent dans le compartiment. À mes côtés, est-ce un jeune ménage? Il ne se parle pas. Elle mange une orange et semble d'ailleurs plus grincheuse que jamais, avalant rapidement son fruit avec un air de fureur tout à fait drôle.
Ah tiens, maintenant tout le monde déballe ses provisions. Et poulet par-ci, veau froid par-là, sel et poivre dans du papier, cornichons dans un mouchoir. Tout ce qui peut vous dégoûter des nourritures pendant l'éternité. Je ne sais rien de plus commun, de plus grossier, de plus inconvenant, de plus mal appris que de manger dans un wagon où se trouvent d'autres voyageurs. S'il gèle, ouvrez les portières. S'il fait chaud, fermez-les et fumez la pipe. Mettez-vous à chanter, aboyez, livrez-vous aux excentricités les plus gênantes. Tiens, retirez vos bottines et vos chaussettes et coupez les ongles de vos pieds. Tâchez de rendre enfin à ces voisins mal élevés la monnaie de leur savoir-vivre. Tout est permis, tout est trop doux pour les rustres qui vous empoisonnent par l'odeur de leur mangeaille. Est-ce que la fumée du tabac vous gêne, madame?
Non capisco.
Signora, il fumo del tabacco la disturba?
Che mi fa?
Qu'est-ce que tu lui as dit?
Je lui ai demandé si nous pouvions fumer.
Elle ne sait donc pas le français?
Pas un mot.
Et qu'a-t-elle répondu?
Qu'elle nous autorisait à faire tout ce qui nous plairait.
C'est tout ce qu'elle a dit?
Mon cher, si tu avais compté ses paroles, tu aurais remarqué qu'elle en a prononcé que 6, dont 2 pour nous faire comprendre qu'elle n'entendait pas le français. Il en reste donc 4.
Mais tu sais qu'elle est ravissante, hein? Regarde ses yeux. Oh, et ses cheveux, mon cher, j'en ai jamais eu de pareil.
Allons, calme-toi, ou bien attaque si tu as des intentions. Elle ne m'a pas l'air imprenable, bien qu'elle paraisse un peu grognon.
Sa che ora arriviamo a Nizza?
Alla 11, signora. Possiamo essere utile?
Mica!
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Oh, qu'elle te trouve charmant.
Non, te moque pas. Tiens, invite-la à boire un verre.
Signora, posso offrirla un po' de vino?
Mica.
Bon, la voix est moins méchante que tout à l'heure. Vous voulez des cerises, je...
A me non mi piacciamo né le ciliegie né le stusine. Amo soltanto le fragole.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle dit qu'elle n'aime ni les cerises, ni les prunes, mais seulement les fraises.
Oh, mais personne n'apporte de fraises dans un train. Enfin, elles ne peuvent que se convertir en compote. Une compote gluante, rouge, qui goûte sur ta chemise, la rend irrécupérable.
Ça me fait penser. J'ai connu un Corse qui s'en venait à Paris avec son fils. Je parle d'il y a un certain temps, quand la ligne PLM venait à peine d'être inaugurée. Je monte avec eux, puisque nous étions amis, et nous voici partis. Le fils, qui avait 20 ans, n'en revenait pas de voir courir le convoi. Et il restait tout le temps penché à la portière pour regarder. Son père lui disait sans cesse « Eh, prends garde, Mathéo, de te pencher trop, que tu pourrais te faire mal. » Mais le garçon ne répondait point. Moi, je disais au père « Laisse-le donc, si ça l'amuse. » Mais le père en prenait « Allons, Mathéo, ne te penche pas comme ça. » Alors, comme le fils n'entendait point, il le prit par son vêtement pour le faire rentrer dans le wagon et il tira. Mais voilà que le corps nous tomba sur les genoux. Il n'avait plus de tête. Elle avait été coupée par un tunnel et le cou ne saignait plus. Tout avait coulé le long de la route.
À nous qui avons encore nos têtes.
Oui, mais elles vieillissent. Hein. C'est triste. Ça va vite, la vie.
Moi, je vieillis sans m'en apercevoir, le moins du monde. Or, comme on se regarde chaque jour dans son miroir, on ne voit pas le travail de l'âge s'accomplir, car il est lent, régulier, et il modifie le visage si doucement que les transitions sont insensibles. C'est uniquement pour cela que nous ne mourrons pas de chagrin après 2 ou 3 ans seulement de ravages. Car nous ne les pouvons apprécier. Il faudrait, pour s'en rendre compte, rester 6 mois sans regarder sa figure. Oh, alors, quel coup! Et les femmes, comme je les plains, les pauvres êtres. Tout leur bonheur, toute leur puissance, toute leur vie sont dans leur beauté, qui dure 10 ans.
Facciamo radicali. Diciamo 5.
Qu'est-ce que dit-elle?
Soyons radicaux, disons 5 ans.
Oh, mais vous êtes dure, mademoiselle, donnez-vous un peu plus.
Dinosaurio, ti copra il ghiaccio.
Je crois que tu lui plais. Ah.
Si moi je vieillis, en tout cas, c'est sans m'en douter. Je me crois presque un adolescent. Ne me sentant aucune infirmité d'aucune sorte, je suis heureux et tranquille.
Bonjour, bonjour, ne vous dérangez pas, on va s'installer là. Hein, l'odeur, la sens-tu cette fois, mais c'est de l'acide phénique, ma bonne, on a désinfecté ce lieu.
Bon mari, monsieur Padard, est un homme prudent, qui a peur de tout dans la vie. Il a peur des tuiles, des chutes, des fiacres, des chemins de fer, de tous les accidents possibles, mais surtout des maladies. Il a compris, avec une extrême prévoyance, combien notre existence est menacée sans cesse par tout ce qui nous entoure. La vue d'une marche le fait penser aux entorses, aux bras, aux jambes cassées. La vue d'une vitre aux affreuses blessures par le verre. La vue d'un chat aux yeux crevés. Et il vit avec une prudence méticuleuse. Une prudence réfléchie, patiente. Complète.
Mais songe, ma bonne, comme il faut peu de choses pour estropier ou pour détruire un homme. C'est effrayant d'y penser. On sort bien portant. On traverse une rue. Une voiture arrive et vous passe dessus. Ou bien, on s'arrête 5 minutes sous une porte cochère à causer avec un habit et on ne sent pas un petit courant d'air qui vous glisse le long du dos et vous flanque une fluxion de poitrine. Et ça suffit. Bah, c'en est fait de vous.
Il s'intéresse d'une façon particulière à l'article santé publique dans les journaux. Il a cru à Raspail, à l'homéopathie, à la médecine dosimétrique, à la métallothérapie, à l'électricité, au massage, à tous les systèmes que l'on suppose infaillibles pendant 6 mois contre tous les maux. Aujourd'hui, il est un peu revenu de sa confiance et pense avec sagesse que le meilleur moyen d'éviter les maladies consiste à les fuir.
Alors, vers le commencement de l'hiver dernier, j'ai appris par mon journal que Paris subissait une légère épidémie de fièvre typhoïde. Une inquiétude aussitôt m'a envahi.
Oh, qui devint en peu de temps une obsession. Il achetait chaque matin 2 ou 3 journaux pour faire une moyenne avec leurs renseignements contradictoires. Il a bien vite été convaincu que son quartier était particulièrement éprouvé.
Alors, je suis allé voir un médecin pour lui demander conseil. Que fallait-il faire? Rester ou s'en aller? Sur les réponses évasives du docteur, j'ai conclu qu'il y avait danger et je me suis résolu au départ. Je suis rentré donc pour délibérer avec ma femme. Penses-tu, ma bonne, que peau soit ce qu'il nous faut?
Moi, j'avais envie de boire 10, alors j'ai répondu, mais on prétend qu'il fait assez froid à Pau à cause du voisinage des Pyrénées. Cannes doit être plus simple puisque les princes d'Orléans y vont. Ce raisonnement a convaincu Bobary. Il hésita encore un peu, cependant.
Bah oui, la Méditerranée a le choléra depuis 2 ans.
Oh, bon ami, il n'y est jamais pendant l'hiver. Songe que le monde entier se donne rendez-vous sur cette côte.
Dans tous les cas, nous avons emporté des désinfectants et pris soin de faire compléter ma pharmacie de voyage.
Alors... Ah tiens, voilà tes affaires de santé bien en ordre.
Merci, ma bonne, ça va?
Monsieur Padard, mon mari est passé par les plus grandes perplexités. Et enfin, il s'est décidé pour Lyon. Alors nous y sommes descendus et nous nous sommes rendus immédiatement dans sa douche. Hôtel, dont il avait lu le nom dans le guide et déjà des préoccupations nouvelles l'ont assailli.
Mais quoi de moins sûr qu'un hôtel, mais surtout dans ce pays recherché par les poitrinaires?
Alors une idée l'a illuminé.
J'ai demandé une chambre au nord, tout à fait au nord, sans aucun soleil. Ah, sûr qu'aucun malade n'aurait pu habiter là. Mais ici aussi ça sent le malade. On sent le malade. On sent la drogue, là, un désinfectant. Mais je suis sûre qu'on sent la drogue. Mais tu ne sens pas, ni ma bonne?
Oh oui, ça sent un peu. Je reconnais pas bien l'odeur. Enfin, ça sent le remède.
Mais quel pays. Mais quel affreux pays. Mais il n'y a que des malades partout. Ah, bah tiens, vous vous portez bien?
Très bien. Oui, tout à fait bien.
Ça suffit, merci. Hein. Madame et moi, nous allons descendre au prochain arrêt. Hein.
Faites à votre aise, monsieur.
Oui, quel farceur. Ils ne veulent même pas avouer qu'un des voyageurs est malade. Oui, malade. Je te réponds bien qu'il y a même un qui va mourir, là, celui-là. Mais dis-moi, mais tu le sens pas, l'acide phénique?
Oui, un peu, bon ami.
Oh, ça doit être une mesure d'hygiène générale dans le pays. Il est probable qu'on arrose les rues, les parquets et les wagons avec de l'eau phéniquée par ordre des médecins et des municipalités. Hein? Oh, mais qu'est-ce qui est écrit là sur la page titre de ce journal-là? Oh, il me le faut. Attends, et puis je vous le rends. Les bruits malveillants qu'on avait fait courir sur l'état sanitaire de notre ville sont dénués de fondement. Aucun cas de choléra n'a été signalé à Nice ou aux environs. Madame Panard, le choléra, il s'est répandu à Nice, ça j'en étais sûr. Sortons de ce train, sautons. Allez, retournons à Paris tout de suite. Attends, j'ai besoin d'un anticholérique. Écartez-vous s'il vous plaît, j'ouvre mon sac.
Oh, mais mon ami, mais le voilà ton choléra. Sa fiole d'acide phénique s'est brisée, le liquide répandu a brûlé tout le dedans du sac. On va te laver les mains, mon chéri, avec du savon, et puis enlève-nous ce sac, tu veux bien? On descendra à Nice et tu sais qu'on restera à Nice. J'adore cette ville. On va voir si un autre compartiment est libre. Ça pue terriblement. Oh, pardon, monsieur. Mais n'êtes-vous pas monsieur Garnier?
Oui, madame.
Bah, vous ne me reconnaissez pas?
Oui. Et non, j'hésite. Je crois bien en effet avoir vu votre visage quelque part, mais où, quand? Je vous connais certainement, sans retrouver votre nom.
Madame Padard.
Jamais je ne reçus un pareil coup. Il me semble en une seconde que tout est fini pour moi. Je sens seulement qu'un voile se déchire devant mes yeux et que je vais découvrir des choses affreuses et navrantes. C'est elle, cette grosse femme, je l'ai vue hier, me semble-t-il, et je la retrouve ainsi, est-ce possible? Une douleur violente m'étreint le cœur. Je l'avais rencontrée au bord de la mer à Étretat, voici 12 ans environ. J'étais ravi et séduit. Il y a des figures dont le charme entre en nous, brusquement, nous envahit tout d'un coup. Il semble qu'on trouve la femme qu'on était né pour aimer. J'ai eu cette sensation et cette secousse. Elle était mariée, mais l'époux venait tous les samedis pour repartir les lundis. Il me laissait d'ailleurs indifférent. Je n'en étais point jaloux. Je ne sais pourquoi, jamais un être ne m'a paru avoir aussi peu d'importance dans la vie, n'a attiré moins mon attention que cet homme. Comme je l'aimais, elle.
comme elle était belle, gracieuse et jeune. Cela dura 3 mois. Puis je suis parti pour l'Amérique, le cœur broyé de désespoir. Mais sa pensée demeurait en moi, persistante et triomphante. Elle me possédait de loin comme elle m'avait possédé de près. Des années ont passé, je ne l'oubliais point. Son image charmante restait devant mes yeux et dans mon cœur. Vous. 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 Oh, les larmes me montent aux yeux. Je pleure sa jeunesse, je pleure sa mort.
Oh, je respire encore. Mais je suis bien changée, n'est-ce pas? Oh, ben, jusqu'au point de me douter que vous ne me reconnaîtriez pas si jamais nous nous rencontrions. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes changée. Il m'a fallu quelque temps pour être sûre de ne pas me tromper. Oh. Vous êtes devenu tout blanc, songez. Voilà 12 ans. 12 ans. Oh, monsieur Barnard, reviens. Je vais retrouver mon mari. Vous pouvez nous rejoindre si jamais vous avez besoin de changer d'air.
Oh, j'ai embrassé sa main. Je n'ai rien trouvé à lui dire que d'affreuses banalités. J'ai été trop bouleversé pour lui parler. Quel coup! Elle m'a rappelé. Je me rappelle ce que j'ai été. Je revois en pensée ma moustache brune, mes cheveux noirs, la physionomie jeune de mon visage. Maintenant, je suis vieux.
Valence, on arrive à Valence. C'est ici qu'on assassine. On se met à raconter des histoires effrayantes, de mauvaises rencontres. Chaque homme, c'est une anecdote à son honneur. Chacun a intimidé, terrassé, garrotté quelques malfaiteurs en des circonstances surprenantes, avec une présence d'esprit et une audace admirables. Monsieur Panard, gérant parisien en fuite de virus, veut à son tour conter une aventure.
Moi, je n'ai jamais eu la chance d'expérimenter mon courage dans une affaire de cette sorte. Mais j'ai connu une femme... Une de mes clientes, morte aujourd'hui, à qui arriva la plus singulière chose au monde, et aussi la plus mystérieuse, la plus attendrissante. C'était une Russe, la comtesse Marie Baranov, une très grande dame d'une exquise beauté. Vous savez comme les Russes sont belles, enfin du moins comme elles vous semblent belles, avec leur nez fin, leur bouche délicate, leurs yeux rapprochés d'une indéfinissable couleur d'un bleu-gris, et leur grâce, froide et un peu dure.
Elles ont quelque chose de méchant et de séduisant, d'altier et de doux, de tendre et de sévère, tout à fait charmant pour un Français. Au fond, c'est peut-être seulement la différence de race et de type qui font voir tant de choses en nous. Mon médecin, depuis plusieurs années, me voyait menacée d'une maladie de poitrine et tâchait de me décider à venir dans le midi de la France. Mais je refusais obstinément de quitter Saint-Pétersbourg. Enfin, l'automne dernier, me jugeant perdue, le docteur prévint mon mari qui m'ordonna aussitôt de partir pour Menton.
Elle prend le train, seule, dans son wagon. Ses gens de service occupant un autre compartiment. Elle reste contre la portière, un peu triste, regardant passer les campagnes et les villages, se sentant bien isolée, bien abandonnée dans la vie, sans enfants, presque sans parents, avec un mari dont l'amour était mort et qui l'a jeté ainsi au bout du monde sans venir avec elle, comme on l'envoie à l'hôpital un valet malade. À chaque station, son serviteur, Yvan, vient s'informer que rien ne manque à sa maîtresse. C'est un vieux domestique, aveuglément dévoué, prêt à accomplir tous les ordres qu'elle lui donnerait. La nuit tombe. Le convoi roule à toute vitesse. Elle ne peut dormir, énervée à l'excès. Soudain, la pensée lui vient de compter l'argent que son mari lui a remis à la dernière minute en or de France. Elle ouvre son petit sac et vide sur ses genoux le flot luisant de métal.
Mais tout à coup, un souffle d'air froid me frappe le visage. Surprise, je lève la tête. La portière vient de s'ouvrir. Éperdue, je jette brusquement un châle sur mon argent répandu dans ma robe. Et j'attends. Quelques secondes s'écoulent. Puis un homme apparaît. Nu-tête, blessé à la main, haletant, en costume de soirée. Il referme la porte, s'assoit, me regarde avec des yeux luisants, puis enveloppe d'un mouchoir son poignet dont le sang coule. Je me sens défaillir de peur. Cet homme, certes, m'a vu compter mon or, et il est venu pour me voler et me tuer. Il me fixe toujours, essoufflé, le visage convulsé, prêt à bondir sur moi, sans doute.
Madame, n'ayez pas peur.
Je ne réponds rien, incapable d'ouvrir la bouche. Je sens mon cœur battre et mes oreilles bourdonner.
Je ne suis pas un malfaiteur, madame.
Je ne dis toujours rien, mais dans un brusque mouvement que je fais, mes genoux s'étant rapprochés, mon or se met à couler sur le tapis comme l'eau coule d'une gouttière. L'homme, surpris, regarde ce ruisseau de métal et il se baisse tout à coup pour le ramasser.
Elle, effarée, se lève, jetant à terre toute sa fortune, et elle court à la portière pour se précipiter sur la voie. Mais il comprend ce qu'elle va faire. Il s'élance, la saisit dans ses bras, la fait asseoir de force et, la maintenant par les poignets, dit
« Écoutez-moi, madame, je ne suis pas un malfaiteur. Et la preuve, c'est que je vais ramasser cet argent et vous le rendre. Mais je suis un homme perdu, un homme mort si vous ne m'aidez pas à passer la frontière. Je ne puis vous en dire davantage. » Dans une heure, nous serons à la dernière station russe. Dans 1h20, nous franchirons les limites de l'Empire. Si vous ne me secourez point, je suis perdu. Et cependant, madame, je n'ai ni tué, ni volé, ni rien fait de contraire à l'honneur. Cela, je vous le jure, je ne puis vous en dire davantage.
Et se mettant à genoux, il ramasse l'or jusque sous les banquettes, cherchant les dernières pièces roulées au loin. Puis quand le petit sac de cuir est plein de nouveau, il me le remet sans ajouter un mot et retourne s'asseoir à l'autre coin du wagon.
Il ne remue plus ni l'un ni l'autre.
Elle demeure immobile et muette, encore défaillante de terreur mais s'apaisant peu à peu.
Il ne fait pas un geste, pas un mouvement. Il reste droit, les yeux fixés devant lui, très pâle, comme s'il était mort.
De temps en temps, elle me jette un regard brusque, vite détourné.
C'est un homme de 30 ans environ, fort beau, avec toute l'apparence d'un gentilhomme.
Le train court dans les ténèbres, jette par la nuit ses appels déchirants, ralentit parfois sa marche, puis repart à toute vitesse. Mais soudain, il calme son allure, siffle plusieurs fois et s'arrête tout à fait. Yvan apparaît à la portière afin de prendre les ordres. La comtesse Marie, la voix tremblante, considère une dernière fois son étrange compagnon, puis elle dit à son serviteur d'une voix brusque
« Ivan, tu vas retourner près du comte, je n'ai plus besoin de toi. »
« Mais Barine... »
« Non, tu ne viendras pas, j'ai changé d'avis. Je veux que tu retournes en Russie. Tiens, voici de l'argent pour y retourner. Donne-moi ton bonnet et ton manteau. »
Le vieux domestique, effaré, se décoiffe et tend son manteau, obéissant toujours sans répondre, habitué aux volontés soudaines et aux irrésistibles caprices des maîtres. Et il s'éloigne, les larmes aux yeux.
« Ces choses sont pour vous, monsieur. Vous êtes Ivan, mon serviteur. Je ne mets qu'une condition à ce que je fais. C'est que vous ne me parlerez jamais, que vous ne me direz pas un mot. Ni pour me remercier, ni pour quoi que ce soit. »
L'inconnu s'incline sans prononcer une parole. Bientôt, on s'arrête de nouveau et des policiers en uniforme visitent le train. La comtesse leur tend les papiers et montrant l'homme assis au fond de son wagon.
« C'est Ivan, mon serviteur, dont voici le passeport. »
Le train se remet en route. Pendant toute la nuit, ils restent en tête à tête, muets tous deux. Le matin venu, comme on s'arrête dans une gare, l'inconnu descend, puis, debout à la portière, dit
« Pardonnez-moi, madame, de rompre ma promesse, mais je vous ai privé de votre domestique. Il est juste que je le remplace. N'avez-vous besoin de rien ?»«
Allez chercher ma femme de chambre. »
Il y va, et puis il disparaît. Quand elle descend pour fumer une cigarette, elle l'aperçoit de loin qui la regarde. Arrivé à Menton, chacun descend et ils partent dans des directions opposées.
Un jour, comme je reçois mes clients dans mon cabinet, je vois entrer un grand garçon qui me dit...
Maître, je viens vous demander des nouvelles de la comtesse Marie Baranoff. Je suis, bien qu'elle ne me connaisse pas, un ami de son mari.
J'ai répondu, elle est perdue. Elle ne retournera pas en Russie. Et cet homme brusquement s'est mis à sangloter, puis il s'est levé et il est sorti en trébuchant comme un ivrogne. J'ai prévenu le soir même la comtesse qu'un étranger était venu m'interroger sur sa santé. Elle paraissait émue et m'a raconté toute l'histoire que je viens de vous dire. Et elle a ajouté
« Cet homme que je ne connais point me suit maintenant comme mon ombre. Je le rencontre chaque fois que je sors. Il me regarde d'une étrange façon, mais il ne m'a jamais parlé. Tenez, je parie qu'il est sous mes fenêtres. »
Elle a quitté sa chaise longue. Elle a écarté les rideaux et m'a montré en effet l'homme qui était venu me trouver, assis sur un banc de la promenade, les yeux levés vers l'hôtel. Il nous a aperçus, s'est levé et s'est éloigné sans retourner une fois la tête. Alors, j'ai assisté à une chose surprenante et douloureuse. À l'amour muet de ces deux êtres qui ne se connaissaient point. Il l'aimait, lui, avec le dévouement d'une bête sauvée, reconnaissante et dévouée à la mort. Il venait chaque jour me dire « Comment va-t-elle ?» comprenant que je l'avais deviné. Et il pleurait affreusement quand il l'avait vu passer plus faible et plus pâle chaque jour.
Je ne lui ai parlé qu'une fois à ce singulier homme, mais il me semble que je le connais depuis 20 ans. Je ne veux pas connaître son nom, lui parler. Non, non. Cela me gâterait une étrange amitié. Il faut que nous demeurions étrangers l'un à l'autre.
Je ne fais rien pour me rapprocher d'elle. Je veux tenir jusqu'au bout l'absurde promesse de ne jamais lui parler.
Elle est morte un matin vers 10 heures. Comme je sortais de l'hôtel, il vint à moi, visage bouleversé, il savait déjà la nouvelle. « Je voudrais la voir une seconde devant vous, » dit-il. Je lui pris le bras et rentrai dans la maison. Quand il fut devant le lit de la morte, il lui saisit la main et la baisa d'un interminable baiser. Puis, il se sauva comme un insensé.
« Voilà, certes, la plus singulière aventure de chemin de fer que je connaisse. Oh, il faut dire aussi que les hommes sont des drôles de toqués. Mais n'aurait-elle pas désiré qu'il rompe la règle de conduite qu'elle lui avait imposée ?
Papa, eh bien non, 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 comme je l'ai bien dit.
Mais que comprenez-vous à la femme ? Oh, je vais chercher un compartiment, je pourrais m'étaler dormir jusqu'à Nice.
Bon, je viens ou je ne viens pas ?
Ne viens pas !
D'accord. Il paraît qu'avec ma femme, ça veut dire que je dois venir.
Questi due erano meno pazzi che lo penso. Erano. E erano.
Nous ne saurons pas ce qu'elle a voulu dire. J'aurais bien voulu savoir ce qu'elle voulait dire. Qu'est-ce qu'elle aura voulu dire ? Bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je vais aller m'occuper d'elle.
Le compartiment s'est vidé. Moi, je suis encore là, fidèlement assis sur ma banquette de train. Je n'en décolle pas. C'est comme si j'étais assis sur une banquette de train depuis 6 ans. Je change juste de train. C'est dû à un hasard, un vrai hasard. Un soir de fête chez la princesse de Rennes, fatigué de rester debout, je suis entré dans une chambre à coucher, déserte et presque sombre. Je cherchais un siège où dormir. Certains comme ma femme ne voudraient point partir avant le jour. J'ai aperçu dès la porte le large lit d'azur à fleurs d'or et par derrière une glace immense, discrète. Elle semblait regarder la couche, sa complice. On aurait dit qu'elle avait des souvenirs, des regrets et qu'on allait voir passer sur sa face unie et vide ses formes charmantes qu'ont des hanches nues des femmes et les gestes doux des bras quand ils enlacent. Je me suis arrêté souriant, un peu ému, au seuil de cette chambre d'amour. Mais soudain, quelque chose est apparu dans la glace en face, comme si des fantômes évoqués avaient surgi devant moi. Un homme et une femme, assis sur un divan très bas, cachés dans l'ombre.
Ils se levèrent, et le cristal poli, reflétant leurs images, les montrait debout et se baisant aux lèvres avant de se séparer. J'ai reconnu ma femme et le marquis de Sérvigné. Je me suis retourné et je me suis éloigné en homme fort et maître de moi, comme on dit. J'ai attendu que le jour vienne pour emmener ma femme, mais je ne songeais plus à dormir. Dès que je fus seul avec elle, je lui ai dit « Je vous ai vu tout à l'heure dans la chambre de la princesse de Rennes. Je n'ai point besoin de m'expliquer davantage. Je n'aime ni les reproches, ni les violences, ni le ridicule. Voulant éviter ces choses, nous allons nous séparer sans bruit. Les hommes d'affaires régleront votre situation suivant mes ordres. Vous serez libre de vivre à votre guise, n'étant plus sous mon toit, mais je vous préviens que si quelque scandale a lieu, comme vous continuez à porter mon nom, je serai forcé de me montrer sévère. » Elle a voulu parler, je l'en ai empêché, je me suis incliné et je suis rentré chez moi. C'était une poupée de Paris, fine, gâtée, élégante, coquette, assez spirituelle, avec plus de charme que de beauté. Elle ressemblait à ces verres de champagne où tout est mousse. Quand on a fini par trouver le fond, c'est bon tout de même, mais il y en a trop peu. Mais depuis ce soir-là, depuis que je suis seul, j'ai peur dans mon appartement. La nuit, je sens une présence, la présence d'un corps. Parfois même, je vois quelqu'un assis face au feu. Une main pend du côté droit, sa tête penche du côté gauche, comme celle d'une personne qui dort. Quand je m'approche, le siège est vide. Qui est cette personne ? Elle vient parce que je suis seul, uniquement parce que je suis seul. Le Horla. Je l'ai baptisé le Horla. Ah, tu reviens seul ? L'italienne t'a filé entre les pattes.
Tu lis ? Qu'est-ce que tu lis ?
Les nouvelles de Maupassant. Inoxydable.
C'est vrai, je les connais toutes.
C'est ça.
Regarde par la fenêtre là-bas, ce grand feu dans ce bois, et ces deux hommes qui se tiennent debout, deux misérables en haillons rouges dans la lueur éclatante du foyer, avec leurs faces barbues tournées vers nous.
On n'allume pas un feu pareil dans une forêt pour cuire la soupe. Que font-ils ? Sont-ils des malfaiteurs qui brûlent des preuves ou des sorciers qui préparent un filtre ?
Et nous voilà à nouveau dans le noir. Je suis content d'avoir vu cela. J'ai éprouvé pendant quelques minutes une sensation disparue, celle de quand la terre était si troublante, autrefois, quand elle était si mystérieuse. Plus de fantastique, plus de croyances étranges, tout l'inexpliqué est explicable. Le surnaturel baisse comme un lac qu'un canal épuise. La science, de jour en jour, recule les limites du merveilleux. Dis-moi donc une nouvelle.
Idylle. Le train vient de quitter Gênes. Allons vers Marseille et suivons les longues ondulations de la côte rocheuse. Il glisse comme un serpent de fer entre la mer et la montagne. Il rampe sur les plages de sable jaune que les petites vagues bordent d'un filet d'argent et entre brusquement dans la gueule noire des tunnels ainsi qu'une bête en son trou. À Saint-Raphaël monte une femme forte et un jeune homme. Qu'est-ce qu'elle est chargée ? Paquet, panier ? Lui, dans un mouchoir, toute sa fortune. Une paire de souliers, une chemise, une culotte et une veste. C'est une forte paysanne piémontaise, aux yeux noirs, à la poitrine volumineuse, aux joues charnues. Elle a poussé plusieurs paquets sous la banquette de bois, gardant sur ses genoux un panier. Lui, il a environ 20 ans, il est maigre, hâlé, avec ce teint noir des hommes qui travaillent la terre au grand soleil.
Les orangers, les citronniers en fleurs, avec leur parfum sucré si doux, si fort, si troublant.
Le soleil monte au ciel et verse sur la côte une pluie de feu. Le train va lentement maintenant. On dirait que le monde entier somnole, ne peut se décider à changer de place par cette chaude matinée de printemps.
La paysanne respire avec peine. Des gouttes de sueur perlent sur son front, comme si elle souffrait d'une oppression pénible.
De temps en temps, elle ferme les yeux, puis les rouvre brusquement. Son panier glisse sur ses genoux, prêt à tomber. Elle le rattrape d'un geste vif, puis s'assoupit de nouveau. À nouveau, elle se réveille et ouvre son panier. Elle en tire un morceau de pain, des œufs durs, une fiole de vin et des prunes, de belles prunes rouges, et elle se met à les manger.
Qu'est-ce qu'il me regarde ? Il demeure les bras croisés, les yeux fixes, les joues creuses, les lèvres closes.
Elle fait tout disparaître. Le pain, les œufs, les prunes, le vin. Et maintenant qu'elle a achevé son repas, bien rempli, elle desserre son corsage.
Il fait si chaud qu'on respire plus.
C'est un beau temps pour voyager.
Ils sont voisins, ils se mettent à causer.
Je suis mariée. J'ai déjà 3 enfants laissés en garde à ma sœur, car j'ai trouvé une place de nourrice. Une bonne place chez une dame française à Marseille.
Je cherche du travail. On m'a dit que j'en trouverais aussi par là, car on bâtit beaucoup.
Puis il se taise. Il s'endorme de nouveau. Puis il rouvre les yeux presque en même temps. La nourrice pend-elle, les joues molles, les yeux ternes. Soudain, d'un geste inconscient, elle ouvre son corsage tout à fait.
J'ai pas donné le sein depuis hier. Me voilà étourdie, comme si j'allais m'évanouir.
Il ne répond pas, il ne sait que dire.
Quand on a du lait comme moi, faut donner le sein au moins 3 fois par jour. Sans ça, on se trouve gêné. C'est comme un poids que j'aurais sur le cœur. Un poids qui m'empêche de respirer, qui me casse les membres. Ah, oh, c'est malheureux d'avoir du lait tant que ça.
Ah oui, c'est malheureux. Ça doit vous tracasser.
Elle semble bien malade, en effet, accablée et défaillante.
Il suffit de presser dessus pour que le lait sorte comme d'une fontaine. C'est vraiment curieux à voir. On le croirait pas. À Casal, tous les voisins venaient me regarder.
Vraiment ?
Bah oui, vraiment. Je vous le montrerai bien, mais ça servirait de rien. On n'en fait pas sortir assez de cette façon. Encore une halte. Vous voyez là, debout, près d'une barrière, une femme tient en ses bras un jeune enfant qui pleure. Elle est maigre et déguenillée. En voilà une encore que je pourrais soulager. Et le petit aussi pourrait me soulager. Tenez, je suis pas riche, puisque je quitte ma maison et mes gens et mon chéri dernier pour me mettre en place. Mais je donnerais encore bien 5 francs pour avoir cet enfant là 10 minutes et lui donner le sein. Ça le calmerait, et moi donc. Il me semble que je renaîtrais.
Elle se tait encore. Puis elle passe plusieurs fois sa main brûlante sur son front où coule la sueur. Elle gémit.
Oh, je peux plus tenir. Il me semble que je vais mourir.
Elle ouvre tout à fait sa robe. Le sein de droite apparaît énorme, tendu, avec sa fraise brune.
Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ?
Le train se remet en marche et continue sa route au milieu des fleurs qui exhalent leur haleine pénétrante des soirées tièdes. Quelquefois, un bateau de pêche semble endormi sur la mer bleue, avec sa voile blanche immobile qui se reflète dans l'eau comme si une autre barque se trouvait la tête en bas.
Mais, madame, je pourrais vous soulager ?
Oh oui, si vous voulez. Vous me rendrez bien service. Je peux plus tenir, je peux plus.
Il se met à genoux devant elle. Et elle se penche vers lui, portant vers sa bouche, dans un geste de nourrice, le bout foncé de son sein. Dans le mouvement qu'elle fait, en le prenant de ses 2 mains pour le tendre vers cet homme, une goutte de lait apparaît au sommet. Il la boit vivement, saisissant comme un fruit cette lourde mamelle entre ses lèvres. Et il se met à téter d'une façon goulue et régulière. Il passe ses 2 bras autour de la taille de la femme, qu'il serre pour l'approcher de lui. Et il boit à lente gorgée, avec un mouvement de cou pareil à celui des enfants.
En voilà assez pour celui-là. Prenez l'autre maintenant.
et il prend l'autre avec docilité. Elle a posé ses deux mains sur le dos du jeune homme. Et elle respire maintenant avec force, avec bonheur, savourant les haleines des fleurs mêlées au souffle d'air que le mouvement du train jette dans les wagons.
Oh, ça sent bon par ici.
Il ne répond pas, buvant toujours à cette source de chair et fermant les yeux comme pour mieux goûter. Mais elle l'écarte doucement.
En voilà assez, je me sens mieux. Ça m'a remis l'âme dans le corps. Vous m'avez rendu un fameux service. Je vous remercie bien, monsieur.
Oh, c'est moi qui vous remercie, madame. Voilà deux jours que je n'avais rien mangé.
Attendez, je vous aide avec votre panier.
De retour dans mon compartiment, je regarde vers mon compagnon. Il n'a point bougé de toute la nuit et semble encore en plein sommeil. Profitons pour me préparer pour l'arrivée. Refaire l'aspect du visage que la nuit change si fort, quand on atteint un certain âge. Le grand poète a dit, quand on est jeune, on a des matins triomphants. Quand on est jeune, on a de magnifiques réveils, avec la peau fraîche, l'œil luisant et les cheveux brillants de sève. Un rayon de lumière oblique entre maintenant dans le wagon et tombe juste en travers du dormeur en face, qui remue de nouveau et montre tranquillement son visage. C'est une jeune femme brune, toute fraîche, fort jolie et grasse. Elle se redresse. Je suis stupéfait, car vraiment, on aurait juré que c'est ma femme. Mais ma femme, extraordinairement changée, à son avantage, engraissée autant que moi-même, mais en mieux. Elle me regarde tranquillement, paraît ne pas me reconnaître, et se débarrasse avec placidité des étoffes qui l'entourent. Elle a l'assurance calme d'une femme sûre d'elle-même, l'audace insolente du réveil, se sachant, se sentant en pleine beauté, en pleine fraîcheur. Est-ce ma femme ou une autre qui lui ressemblerait comme une sœur? Depuis 6 ans que je ne l'ai pas vue, je peux me tromper. Elle bâille. Je reconnais son geste. Je demeure éperdu, horriblement perplexe. Mais oui, c'est ma femme, morbleu. Il n'y en a pas deux avec ce nez-là. 1000 souvenirs me reviennent. Des souvenirs de caresses, des petits détails de son corps. Un grain de beauté sur la hanche, un autre au dos en face du premier, comme je les ai souvent baisés. Mais comme elle est changée, embellie, c'est elle et ce n'est plus elle. Je la trouve plus mûre, plus faite, plus femme, plus séduisante, plus désirable, adorablement désirable. Ce sont deux femmes en une, mêlant une grande part d'inconnu nouveau à une grande part de souvenirs aimés. Donc, cette femme étrangère, inconnue, rencontrée par hasard dans un wagon, est à moi. M'appartient de par la loi. Je n'ai qu'à dire « je veux ». Que vais-je faire? Comment lui parler? Que lui dire? M'a-t-elle reconnue, elle? Berthe, n'avez-vous besoin de rien? Je pourrais vous apporter...
Non, de rien. Merci.
Ma chère Berthe, puisqu'un hasard bien singulier nous remet en présence après 6 ans de séparation sans violence, allons-nous continuer à nous regarder comme deux ennemis irréconciliables? Nous sommes enfermés en tête à tête, tant pis, ou tant mieux. Moi, je ne m'en irai pas. Donc, n'est-il pas préférable de causer comme des amis, jusqu'au terme de notre route?
Comme vous voudrez.
Je vois qu'il faut vous faire la cour. Soit, c'est d'ailleurs un plaisir car vous êtes charmante. Vous ne vous figurez point comme vous avez gagné depuis 6 ans. Je ne connais pas de femme qui m'ait donné la sensation délicieuse que j'ai eue en vous voyant sortir de vos fourrures tout à l'heure. Vraiment, je n'aurais jamais cru possible un tel changement.
Je ne vous en dirai pas autant car vous avez beaucoup perdu.
Vous êtes dure.
Pourquoi? Je constate. Vous n'avez pas l'intention de m'offrir votre amour, n'est-ce pas? Donc il est absolument indifférent que je vous trouve bien ou mal. Je vois que ce sujet vous est pénible. Parlons d'autre chose. Qu'avez-vous fait depuis que je ne vous ai vu?
Moi, j'ai voyagé, j'ai chassé, j'ai vieilli, comme vous voyez. Et vous ?
Moi, j'ai gardé les apparences, comme vous me l'aviez ordonné.
Et je vous en remercie. Laissez-moi vous baiser la main.
Vous êtes fort, vraiment, toujours maître de vous.
Puisque vous avez consenti à ma première demande, voulez-vous maintenant que nous causions sans aigreur ?
De l'aigreur ? Mais je n'en ai pas. Vous m'êtes complètement étranger. Je cherche seulement à animer une conversation difficile. Quel âge avez-vous donc aujourd'hui ? Je vous croyais plus jeune que vous ne paraissez.
J'ai 55 ans. J'ai oublié de vous demander des nouvelles de la princesse de Rennes. Vous la voyez toujours ?
Oui, toujours. Elle va fort bien, merci.
Ma chère Berthe, je viens de changer d'avis. Vous êtes ma femme et je prétends que vous reveniez aujourd'hui sous mon toit. Je trouve que vous avez gagné en beauté, en caractère et je vous reprends. Je suis votre mari, c'est mon droit.
Je suis bien fâchée, mais j'ai des engagements.
Tant pis pour vous, la loi me donne la force, j'en userai.
Le train ralentit sa marche, on arrive. Mon cher Raymond, n'abusez pas d'un tête-à-tête que j'ai préparé. J'ai voulu prendre une précaution suivant vos conseils et pour n'avoir rien à craindre, ni de vous ni du monde, quoi qu'il arrive. Vous allez à Nice, n'est-ce pas ?
J'irai où vous irez ?
Pas du tout. Écoutez-moi et je vous promets que vous me laisserez tranquille. Tout à l'heure, sur le quai de la gare, vous allez voir la princesse de Rennes et la comtesse Henriot qui m'attendent avec leur mari. J'ai voulu qu'on nous vit ensemble, vous et moi, et qu'on sût bien que nous avons passé la nuit seuls dans ce coupé. Ne craignez rien, ces dames le raconteront de partout tant la chose paraîtra surprenante. Je vous disais tout à l'heure que, suivant en tout point vos recommandations, j'avais soigneusement gardé les apparences. Il n'a pas été question du reste, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pour continuer que j'ai tenu à cette rencontre. Vous m'avez ordonné d'éviter avec soin le scandale. Je l'évite, mon cher, car j'ai peur d'être enceinte. Vous ? Sans blague.
La princesse de Rennes ?
Vous vous voyez toujours ? Je suis bien étonnée. Comme tu sais bien garder les apparences. Oui, nous faisons quelquefois des fugues comme cela en bons amis qui ne peuvent vivre ensemble. Il a consenti à m'accompagner pour ne pas me laisser voyager seule. Nous allons d'ailleurs nous quitter ici. Il a déjà assez de moi.
J'ai embrassé sa main machinalement et elle a disparu avec ses amis. J'entends la voix de ma femme et ses rires joyeux qui s'éloignent. Je ne la reverrai jamais. A-t-elle menti ? A-t-elle dit vrai ? Je l'ignorerai toujours.
Mais Raymond, on arrive à Nice.
On est à Nice ?
Oui.
Ma che farò adesso ? Vuoi che venga con voi?
Come mai con noi? Cosa intendi?
Vuoi che venga con voi subito?
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle demande si nous voulons qu'elle vienne avec nous.
Mais avec nous? Mais oui, mais pourquoi? Mais oui, comment?
Dove vuoi andare, signora?
Che mi fa?
Mais andiamo in albergo.
Bene, andiamo all'albergo.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Elle voudrait venir à l'hôtel avec nous.
À l'hôtel, mais bien sûr, dis-lui que nous l'emmenons où il lui plaira, mais seulement il faudra savoir avec qui elle vient, avec toi ou avec moi.
Prends ta valise de santé, beau cher, moi je prends la valise.
Doucement, ma bonne, doucement, voyons. Nous allons chercher une place pour nous asseoir et retourner à Paris par retour de ce train. Oh. C'est une solution évidente et limpide. Mais qu'est-ce que j'ai vu par la fenêtre ? Des gens qui dansent, comme à Toulon. Les gens dansent dans les rues. Mais pourquoi cette folie ? Pourquoi danser en ces jours de mort ? C'est qu'il est là. C'est qu'on le brave, non pas le microbe, mais le choléra. L'être inexprimable et terrible venu du fond de l'Orient.
Et même si c'était pour lui, qu'on danse, qu'on rit, qu'on crie, qu'on allume ses feux, qu'on joue des valses. Même si c'était pour lui, pour l'esprit qui tue et que tu sens partout présent, invisible, menaçant, comme un de ces anciens génies du mal. Même si c'était pour lui qu'on tire des feux d'artifice dans toute la campagne, autour de la ville. Au moins on danse, au moins on crie, au moins on rit. On allume des feux de joie, des orchestres jouent des airs joyeux sur toutes les promenades publiques. On fait tout pour lui échapper. Nous allons rester à Nice.
Dixit. Fake it.
Venez d'entendre « Dans le train » d'après des nouvelles de Guy de Maupassant. Concept et adaptation, Marie-Louise Bischofberger avec la collaboration de Dominique Gould. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Mise en scène, Marie-Louise Bischofberger. Un spectacle enregistré en janvier 2024 à la Scala Paris. Avec Hélène Alexandridis, Dominique Gould, Gérard Holz, Muriel Mayette-Holz, Charlene Nelson, Gert Van Erweinen et Marie Vial. Musique originale, Antoine Bataille. Équipe de réalisation, Benjamin Perru, Antoine Viossa, Victoria Asper, Claire Chesneau et Baptiste Guiton.